Excellent réveil, on débute avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Plus de 5000 nouveaux cas de Covid en France en 24 heures. Un nouveau record depuis le déconfinement et des tests plus massifs. Les autorités durcissent les mesures sanitaires. Masque obligatoire jusqu'en maternelle pour les professeurs. Masque aussi dans les salles de spectacle et de cinéma. Les représentants du spectacle vivant rencontrent aujourd'hui Roselyne Bachelot et Jean Castex. Leurs attentes sont grandes, à la hauteur de la crise.
Une crise qui éprouve encore plus durement nos voisins outre-Manche. Plus d'un million d'emplois menacés, vous l'entendrez.
À la une encore dans l'Hexagone, un quart du plan de relance est fléché vers les TPE et les PME, les structures de l'économie sociale, coopératives, associations qui ont montré leur importance durant le confinement, seront-elles aussi à l'agenda de l'exécutif? Un tabou se brise en Iran, des victimes de viols et d'abus sexuels osent prendre la parole, des femmes et quelques hommes témoignent sur les réseaux sociaux, une deuxième vague MeToo.
Et puis si vous avez un adolescent, vous savez ce qu'est TikTok, mais si vous n'en avez pas ou si l'adolescent refuse de vous parler parce que c'est un adolescent, eh bien écoutez, la question du jour, ça sera dans une dizaine de minutes.
C'est un secteur en souffrance qui sera reçu aujourd'hui rue de Valois. Les représentants du spectacle vivant rencontrent la ministre de la Culture et le Premier ministre au lendemain de premières garanties annoncées par Jean Castex dans le plan de relance à 100 milliards d'euros qui doit être détaillé jeudi prochain. 2 milliards seront consacrés à la culture, des compensations pour combler les écarts entre les recettes liées aux contraintes sanitaires et le point d'équilibre habituel. Et puis pour inciter les spectateurs à revenir dans les salles, plus de distanciation physique sauf dans les zones rouges et obligatoire dans les salles de spectacle et les cinémas. Focus à présent sur ceux qui sont essentiels au secteur culturel, mais dont la fragilité a été exacerbée par la crise, les intermittents. Emmanuel Macron leur a promis une année blanche, ce qui signifie que même si un intermittent du spectacle n'effectue pas ses 507 heures obligatoires par an, il touchera quand même son assurance chômage jusqu'en août prochain. Mais les inquiétudes persistent pour cette année et celle d'après. Le reportage de Sarah Ders.
Des tournages annulés ou reportés, des salles de spectacle fermées, plus aucun concert ni festival, et sur le côté des artisans de la culture sans travail. Sous ce nom se cachent des travailleurs précaires qui alternent entre périodes d'emploi et de chômage. C'est ce que nous explique cette auteure et comédienne Camille Fievé.
On peut pas prévoir sur un an combien de cachets on va faire, à quel montant, parce que c'est vraiment actuellement hyper dur de vivre que de ce qu'on écrit. J'ai vraiment l'impression d'être une profiteuse quand je dis que je suis intermittente du spectacle, alors que moi j'ai pas l'impression de profiter, j'ai plutôt l'impression d'avoir un statut super précaire et je le souhaite à personne.
Un autre comédien et délégué général du syndicat français des artistes interprètes, Jean-Maximilien Sobosinski, n'a pas travaillé cet été et n'est pas monté sur les planches pendant 5 mois.
À partir du moment où les salons étaient fermés, à partir du moment où on a annulé un certain nombre de dates, c'est l'attente qui a été très compliquée à gérer, savoir qu'on ne savait pas tellement ce qui allait se passer. La reprise, elle se fait tout doucement. Le problème, c'est la saison prochaine. Effectivement, on ne sait toujours pas comment les théâtres vont réouvrir.
Ni quand une reprise générale des spectacles sera possible. Les intermittents les plus précaires ont la même inquiétude. Après avoir été protégés par cette année blanche, la situation sanitaire leur permettra-t-elle de retravailler normalement ?
Et au Royaume-Uni, le gouvernement de Boris Johnson, lui, a promis l'équivalent de plus d'1,5 milliard d'euros au secteur culturel. Mais l'industrie musicale britannique n'est pas encore tirée d'affaire, Laura Calmus.
Dans le sud de l'Angleterre, à Glyndebourne, les visiteurs peuvent apprécier une opérette en plein air. Bien moins grandiose que le festival de musique classique qui a normalement lieu chaque année depuis 85 ans. Mais avec la crise sanitaire, la plupart des concerts et festivals ont été annulés. Et sur la chaîne britannique Sky News, le présentateur dresse un constat dramatique.
Selon les spécialistes, plus d'un million de personnes de l'industrie musicale, que ce soit les techniciens, les régisseurs et bien d'autres, risquent de perdre leur travail.
Au total, 60% des emplois dans l'industrie musicale sont à risque. Et dans une lettre ouverte au gouvernement, 1500 artistes dont Paul McCartney, Ed Sheeran et Radiohead appellent à la rescousse. Ainsi que Katie Tunstall, une chanteuse écossaise qui ne cache pas son inquiétude.
La musique live est en risque d'extinction. On doit se rendre compte de l'importance de la musique et l'expérience de la musique en live pour notre pays, car elle est en péril.
Le gouvernement a promis une aide de 1,75 milliard d'euros pour la culture. Une aide conséquente mais qui ne résoudra pas tous les problèmes, selon John Gillooly, directeur d'une salle de concert à Londres.
Cela n'aidera pas les musiciens ou acteurs indépendants ou les intermittents du spectacle.
L'an dernier, l'industrie musicale a généré près de 6 milliards d'euros dans l'économie britannique.
Laura Kalmus au Royaume-Uni pour France Culture. La crise sanitaire qui pousse les autorités à durcir leurs réponses dans l'Hexagone. Plus de 5000 cas détectés, je le disais en titre, depuis 24 heures. Des masques obligatoires à Marseille, dans le centre-ville de Bordeaux. Masques obligatoires aussi pour les professeurs en maternelle dès la semaine prochaine. C'est ce qu'a indiqué hier le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. De nouvelles règles sanitaires à affiner encore ce matin lors d'une conférence de presse de Jean Castex avec les ministres de la Santé et de l'Éducation nationale. Qui doit payer ces masques rendus obligatoires dans les établissements scolaires? Épineuse question à suivre dans le journal de 7h30. La pandémie de Covid-19 et la fermeture des écoles qui s'est traduite par l'impossibilité pour au moins un tiers des élèves dans le monde de bénéficier d'un enseignement, soit 463 millions d'enfants concernés, faute donc de pouvoir suivre des cours en ligne selon l'UNICEF.
7h06 sur France Culture, Jean Castex l'a déjà annoncé hier, un quart du plan de relance est fléché vers les TPE et les PME.
Annonce faite donc hier par le Premier ministre en ouverture de l'université d'été du MEDEF. Pour les détails, il faudra attendre jeudi prochain. Dans quel état d'esprit sont aujourd'hui les chefs d'entreprise en cette rentrée? Anne-Laure Jumet a rencontré un patron de PME dans le secteur industriel qui réalise 5,5 millions d'euros de chiffre d'affaires.
Une tempête en pleine mer, c'est l'image qu'utilise Jean-Marc Barki pour décrire les mois qui viennent de s'écouler. Son entreprise, Siloc, fabrique des colles industrielles dans les Hauts-de-France. Et les mesures mises en place par le gouvernement lui ont été bien utiles pour garder le cap, comme le PGE, le prêt garanti par l'État.
On a pris 1 100 000 euros. On verra si on le conserve au-delà d'une année, mais au moins on sait qu'on a ce filet de sécurité. Donc ça, c'est le PGE. On a eu un prêt rebond de 200 000 euros. Grâce à la BPI et à la région, on a aujourd'hui effectivement de quoi voir venir.
L'entreprise Siloc a aussi demandé le chômage partiel pour ses 25 salariés, mais aujourd'hui, c'est presque du passé.
On a globalement arrêté, on doit avoir peut-être 5% de l'équipe. Il n'y a que les commerciaux qui sont encore un peu en chômage partiel parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire aujourd'hui. C'est très difficile aujourd'hui d'aller voir nos clients et de faire de la réelle prospection. Le marché n'a pas encore redémarré à ce niveau-là.
Pour autant, Jean-Marc Barki n'a pas l'intention de réduire ses effectifs, au contraire.
On vient de passer deux annonces pour engager des VTE, des volontariats territoriaux en entreprise. Et on a plutôt tendance à vouloir augmenter l'effectif. On prend le train dans le sens inverse.
La prime pour l'embauche des moins de 26 ans est d'ailleurs bienvenue, explique ce dirigeant d'entreprise. Mais au-delà des aides, c'est une stratégie de reconquête qu'il entend bien mener dans les mois à venir.
On prépare la réflexion sur les nouveaux marchés, sur les marchés qu'on peut créer, sur l'innovation et en particulier sur des sujets que les autres n'ont pas encore abordés et que nous on a dans les tuyaux.
Des entreprises qui retrouvent de la compétitivité, une bonne nouvelle pour les finances publiques, fait aussi remarquer ce patron de PME, car elles paieront alors plus de TVA et d'impôts sur les sociétés.
Et c'est d'ailleurs le pari que fait le gouvernement, la croissance pour financer une partie de ce plan de relance de 100 milliards d'euros. Selon Jean Castex, l'effet sur la dette publique de ce plan serait quasiment effacé en 2025. Et pendant que Jean Castex inaugurait hier l'université d'été du MEDEF, l'initiative des entrepreneurs sociaux ouvre de son côté une université d'été de l'économie de demain, ce jeudi à Paris, pour réfléchir à un rebond de l'économie par la transformation sociale et écologique, coopérative, association, centres sociaux, structures de l'économie sociale de manière globale ont montré leur importance durant le confinement. Elles sont aussi fragilisées encore plus avec la crise. Seront-elles les oubliées du plan de relance? C'est la crainte de Sébastien Darigrand. Il dirige l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire.
Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a nombre de secteurs qui sont en accompagnement de nos concitoyens dans les territoires, qui sont des centres sociaux, des crèches, des structures de l'éducation populaire, qui sont aujourd'hui en souffrance et pour lesquels il manque aujourd'hui une vraie politique publique de cohésion sociale. C'est pour ça que nous, on plaide pour un fonds d'1 milliard d'euros en direction des secteurs de l'économie sociale et solidaire. Il y a des besoins très forts en renforcement des fonds propres et des capacités de manœuvre financières pour retrouver un niveau d'activité qui a été perdu et qui se remettra pas du jour au lendemain, puisque vous avez des manifestations qui ont été annulées, des événementiels qui ont été annulés, des comportements de la population qui ont changé avec moins de déplacements, des mesures de précaution mises en place notamment en direction des familles qui sont plus réservées sur le fait de mettre leurs enfants dans des lieux de loisirs ou dans des lieux périscolaires. Et donc il y a des inquiétudes importante, puisqu'il y a à peu près 30% des structures associatives qui craignent de ne pouvoir maintenir leur effectif salarié en l'état à la rentrée. On est vraiment en attente du plan de relance, avec une interrogation qui est le fléchage des 3 milliards d'euros annoncés par le ministre de l'économie sur les PME-TPE pour voir dans quelle mesure nous serons éligibles, avec un espoir qui est que le secteur de l'économie sociale et solidaire ne soit pas oublié, mais renforcé dans le cadre des dispositifs de soutien qui seront mis en place à la rentrée.
Sébastien Darigrand, directeur général de l'Union des employeurs de l'économie sociale et solidaire. Il répondait à Catherine Pétillon. L'acte est aussi fort qu'inédit dans le sport professionnel aux États-Unis. Protestant contre les tirs de policiers sur Jacob Blake, un homme noir, les basketteurs des Milwaukee Bucks ont décidé de boycotter leur match de NBA hier, suivi par d'autres équipes de baseball, de football et même par la joueuse de tennis Naomi Osaka. La nuit a été assez calme à Kenosha dans le Wisconsin, mais un adolescent de 17 ans a été arrêté hier après la mort de deux personnes abattues donc dans cette ville américaine où un cocktail dangereux mêlant émeutiers et groupes d'autodéfense armée s'étaient formés à la suite de ce qui ressemble à une bavure policière contre un jeune homme noir. Un tabou est en train de se briser en Iran. Des victimes de viols, des femmes et des hommes dans un pays où l'homosexualité est toujours pénalisée osent prendre la parole pour dénoncer leurs agresseurs. Un mouvement inspiré de MeToo aux États-Unis et qui prend de l'ampleur, Valérie Crova.
Nous l'appellerons Daria, elle a 25 ans, elle vit à Téhéran et a croisé le chemin d'un ancien étudiant en archéologie qui a abusé de plusieurs jeunes femmes.
Il a violé deux amis d'amis. Je les ai mises en contact avec la police. Il a utilisé le même procédé pour différentes filles. Il les invitait à venir boire un verre chez lui et elles se réveillaient nues dans son lit. L'histoire est arrivée à 20 filles différentes.
Daria a été harcelée par cet homme qui a été arrêté avant-hier après que plusieurs jeunes femmes ont partagé leur histoire sur Twitter.
Les gens les ont encouragées à parler, c'est ce qui est nouveau en Iran. Quand ce mouvement a commencé il y a 3 semaines, les femmes ont raconté qu'elles avaient été agressées par des hommes célèbres, des acteurs, des peintres, et personne ne leur a dit qu'elles mentaient.
La police a entendu toutes les victimes d'abus sexuels qui se sont signalées via les réseaux sociaux, parfois même sous leur propre nom, bravant ainsi un autre tabou.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue américain Donald Trump se sont entretenus au téléphone hier pour parler de questions régionales, dont la Méditerranée orientale, dans un contexte de tensions croissantes entre Ankara et Athènes. La Turquie et la Grèce, membres de l'OTAN, se disputent des zones maritimes riches en hydrocarbures. On y revient dans le journal de 7h30. Le temps de ce jeudi 27 août, nuageux voire pluvieux dans la moitié nord de l'Hexagone, quelques averses dans le sud, mais le soleil fera de la résistance au meilleur de la journée. Il fera entre 20 et 35 degrés du nord au sud.